Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, il y aura le journal de la culture. Et puis notre invité qui est déjà là, Amanda Sterz, pour son dernier livre, Lettre d'amour sans le dire. Un récit très envoûtant et elle va nous le dire quand même. Et puis, dans les indispensables, une série pour ados, mais pas seulement. Et puis, le nouvel album de Norah Jones. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est d'abord votre journal de la culture avant votre portrait, journal qui commence, Hélène, malheureusement, par une étude très inquiétante pour l'industrie musicale.
Une information de nos confrères du Parisien. Cette étude dresse un bilan, un triste bilan, sur les pertes économiques concernant la musique. La deuxième industrie culturelle française, c'est 257 000 emplois, 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 2020, le chiffre d'affaires aurait dû représenter 10,4 milliards d'euros, mais avec la crise sanitaire, il va chuter de 43%. Il sera estimé à 4,5 milliards d'euros seulement. Les pertes des salles de spectacle, tournées, festivals avec plus de 150 000 concerts annulés sont estimées à 2,3 milliards d'euros. Les pertes liées à la baisse des ventes de CD, 200 millions d'euros. Les fabricants d'instruments, 75 millions d'euros. La SACEM, Société des auteurs et compositeurs et éditeurs de musique, a demandé à ses membres l'impact direct du confinement sur leur activité. En moyenne, 25 projets ont été reportés. Pour Jean-Noël Tron, le directeur de la SACEM, c'est une non-fête de la musique et il sera
exactement, il sera demain à ce micro dans Culture Média.
Et puis, c'est tout le monde de la culture qui se mobilise. Dans l'Obs, un dossier cette semaine qui s'intitule SOS Spectacle avec la crise sanitaire. 22 000 intermittents du spectacle et 4 200 permanents sont menacés de disparaître ou contraints de se reconvertir. 15 artistes tels que Ariane Ascaride, Fabrice Lucchini, Dominique A, Denis Podalides témoignent de leur inquiétude dans le magazine.
Et puis, il y a quand même, et heureusement, quelques bonnes nouvelles, comme la réouverture des musées et monuments. Et là, ça continue cette fois avec le Centre Pompidou.
Et oui, Philippe, ouverture le 1er juillet avec, je cite, une programmation engagée dès le lendemain de la réouverture. Un débat avec des chercheurs et des artistes sera organisé pour échanger sur les discriminations raciales. 200 enfants seront accueillis cet été pour des ateliers, des rencontres. L'opération à 6 murs, 6 artistes invitera donc les jeunes à créer en extérieur. 6 surfaces murales ont été réinvesties. Fin juillet, Global Resistance mettra en lumière une soixantaine d'artistes réunis au cours des 10 dernières années. L'exposition évoquera la contestation politique à l'heure des décolonisations.
Et puis une lettre, tout à fait autre chose, une lettre écrite par Van Gogh et Gauguin exposée à Amsterdam.
Oui, lettre exceptionnelle. Manuscrite, écrite donc à quatre mains, Vincent Van Gogh et Paul Gauguin. Elle date de 1888 et ils écrivent à leur ami Émile Bernard. Dans cette lettre, les deux artistes témoignent de leur admiration mutuelle, échangent sur le futur de l'art moderne. Ils parlent d'associations de peintres. Van Gogh se demande si elle doit avoir, oui ou non, un caractère commercial. Et ils évoquent une renaissance, un pressentiment d'un nouveau monde dans l'art. Ils écrivent, je cite, « Qui croit que cet art nouveau aura les tropiques pour patrie ? Il me semble que nous-mêmes ne servons que d'intermédiaires et que ce ne sera qu'une génération suivante qui réussira à vivre en paix. » Cette lettre était vendue aux enchères à Drouot, plus de 200 000 euros. Elle sera exposée à Amsterdam cet automne, au musée Van Gogh. Donc, le musée possède déjà plus de 875 lettres de l'artiste.
On passe à la musique. Jean-Michel Jarre en réalité virtuelle pour la fête de la musique.
Il organise dimanche 21 juin un concert musical intitulé Alone Together. En direct de son studio, il proposera donc un show en réalité virtuelle où son avatar jouera à ses titres. C'est quand même une grande première. Le concert sera retransmis sur Facebook et YouTube. Il y aura aussi une projection silencieuse dans la cour du Palais Royal à Paris pour des étudiants en école de formation du son et de l'image.
Et on écoutera au casque, j'imagine, mais on aura les images. Et Ewan McGregor dans la peau d'un grillon.
Oui, Philippe, puisque l'acteur va doubler Jiminy Cricket dans le prochain Pinocchio. Voilà, le grillon de Guillermo del Toro. Un projet avec également Tilda Swinton et Christoph Waltz. Il s'agit d'une comédie musicale. On va se replonger dans les années 30.
Et puis on termine ce journal avec une interrogation que vous résolvez. Qui va incarner la princesse Diana au cinéma ?
Eh bien, il s'agit de Kristen Stewart. Elle sera donc Lady Di au cinéma dans un film intitulé Spencer. Le film s'intéresse à la période où Diana a décidé de ne plus être la femme du futur roi. La production du film ne commencera pas avant début 2021.
Merci beaucoup Hélène. À tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
À tout à l'heure.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et donc, dans Culture Média, Philippe, on accueille Amanda Sterz.
Bonjour Amanda Sterz.
Bonjour.
Casque sur les oreilles, vous êtes romancière. 10 romans traduits en 15 langues, dont Ma place sur la photo ou Chicken Street, qui a été élu en Italie meilleur roman de l'année 2005. C'est pas donné à tout le monde. Vous écrivez également des biographies, comme celle de Johnny Hallyday, qui s'était vendue à 800 000 exemplaires. Et ça doit être beaucoup plus, puisque c'était avant la disparition du chanteur, ou des pièces de théâtre, dont Le vieux juif blonde, qui a très bien marché. Et voici votre 11e roman. Il s'appelle Lettre d'amour sans le dire. C'est un très joli titre. C'est chez Grasset. Alors pour une fois, je vais faire comme tous les gens qui lisent pas les livres. Je vais lire la 4e de couverture. Je précise qu'il y a des guillemets que j'ouvre. On m'a dit qu'au Japon, écrivez-vous, les gens qui s'aimaient ne se le déclaraient pas, qu'on évoquait l'état amoureux comme une chose qui dépasse les êtres, les enveloppe, les révèle ou les broie. On ne dit pas « je t'aime », mais il y a de l'amour comme il y a du soleil. Je ferme ici les guillemets. On comprend que c'est une lettre écrite par une femme. Qui est cette femme et à qui écrit-elle ?
Alors, c'est une femme qui a presque une cinquantaine d'années, qui s'appelle Alice, qui vient du nord de la France. D'un monde assez simple et qui est venue vivre à Paris pour suivre sa fille qui fait un mariage, on va dire, d'argent et qui pense satisfaire sa mère en la sortant de sa condition sociale alors qu'en fait ça la désole. Et elle se retrouve un peu perdue dans Paris, un peu, pas vraiment à sa place. Et un jour, alors qu'il pleut, qu'elle rentre chez elle, elle s'abrite dans un petit salon de thé japonais et on la pousse à aller faire un massage. On la confond avec quelqu'un d'autre. Elle ne sait pas dire non. D'ailleurs, c'est le problème de cette femme qui ne sait pas dire non, pas dire oui, qui est un peu, qui subit son destin. Et un masseur japonais va lui faire un massage shiatsu à travers donc, un pyjama. Donc, c'est quelque chose quand même de très pudique et avec une sorte de distance. Et en la touchant, va au sens propre la réincarner. Lui rappeler qu'elle a un corps, lui rappeler qu'elle existe et qu'elle a le droit d'aimer. Et peu à peu, elle va tomber amoureuse de cet homme.
Votre héroïne a 48 ans, elle est déjà grand-mère, vous avez seulement 42 ans. Pourquoi vous avez choisi une héroïne plus âgée ? Est-ce qu'il y a des choses intimes qu'on peut dire à 48 et pas à 42 ?
Non, je voulais un âge où vraiment on se dise qu'on n'aura plus d'enfants, qu'elle n'aura plus d'enfants elle-même. Et c'est un âge particulier dans la vie d'une femme. J'approche de cet âge-là, mais je pense qu'à 48 ans, c'était assez clair de se dire que le désir physique ne dépend plus de ce schéma judéo-chrétien de continuité, de reproduction. Et donc, c'est du désir pur. Et dans nos sociétés, on a encore du mal à accepter ça. D'ailleurs, je pense que cette espèce de course physique à l'éternelle jeunesse de la femme, c'est pour continuer à donner cette illusion de capacité à la procréation, alors qu'en réalité, on ne demande pas ça aux hommes, puisque eux n'ont jamais à se poser cette question-là. Et je pense qu'il y a une bascule dans la vie d'une femme au moment où on sait qu'elle ne pourra plus être mère, de se dire est-ce qu'elle a quand même le droit de désirer, d'espérer, de construire une histoire d'amour ? Est-ce qu'une histoire, ça se construit sans avoir d'enfants ? Évidemment, oui, mais ça fait partie des choses qu'il faut révolutionner dans la façon qu'on a de voir la femme aujourd'hui.
Ouais, vous êtes même posé cette question. Vous dites, je me suis demandé pourquoi on continue à trouver Robert Redford beau avec toutes ses rides.
Dans mon autre métier de réalisatrice, je pense que ça fait partie de mon job de montrer qu'une femme peut être belle avec des rides, avec le temps qui passe sur son visage et de la rendre désirable à un âge plus élevé. Et c'est vraiment une sorte de lavage de cerveau qui existe depuis des années. Donc on le subit tous et toutes.
Ouais, parce que le livre parle également de misère sexuelle, je vais le dire. Et vous avez fait une sacrée confidence, c'était dans le dernier numéro de Match, non pas le dernier, il y a 3 semaines. Vous dites Amanda Sterz, il m'arrive d'oublier que j'ai un corps, d'oublier de faire l'amour et d'être aimée. Vraiment ?
Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je pense qu'il y a plus d'une femme à qui c'est arrivé des périodes où, en tout cas, je ne sais pas si c'est peut-être oublié sciemment, mais en tout cas, mettre ça de côté pour ne pas prendre le risque d'avoir de la peine et donc pas prendre le risque d'aimer. Ouais.
Alors, je vais dire, il y a aussi des passages carrément érotiques. Dès la page 32, Alice écrit à son masseur « Alors, vos mains ont commencé leurs dents sur mon crâne à nouveau. Ça faisait mal, ça faisait du bien. Une sorte de délice masochiste. Mon corps entier se relâchait, mes cuisses s'écartaient, je m'écrasais dans le sol qui m'aspirait. Je me suis endormi comme une enfant, les muscles relâchés sans pudeur. Et j'ose le dire aujourd'hui, j'avais envie de vous quand j'ai basculé dans le sommeil, envie que vous entriez en moi et que vous n'en sortiez pas. » Comment est née cette histoire ?
C'est pas Fifty Shades non plus, hein, mais elle est née justement par se demander est-ce que les femmes ont le droit au désir. Et je pense qu'on est dans une bascule que ma génération de femmes représente, cette génération de transition. On est entre Je vois le rapport que mes fils ont aux jeunes filles, la façon dont ils les regardent est très très différente. Leur intellect, ce qu'elles ont de, comme rêve, leur dynamisme est aussi important que leur visage ou que leur corps. Et je pense que c'est formidable, on est en train de réussir ça. Mais dans ma génération, il y a cette espèce de chose un peu sacrificielle où les femmes n'ont pas le droit de prononcer certains mots. Et elle vient d'un milieu social modeste où elle n'avait même pas le droit, a priori, de sortir de ce qu'on attendait d'elle. C'est-à-dire que pour réussir, il fallait bien se marier et pas faire un métier.
Vous savez, ce qui me terrifie dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on disait ça il y a 30 ans et on disait la nouvelle génération, ça va changer. Et ben, j'ai l'impression que non, vous restez avec nous parce qu'on a encore plein de questions et on va évidemment revenir sur ce sujet.
Amanda Sterz est notre invitée et dans un instant, on connaîtra les détails de sa vie grâce au portrait inattendu d'Hélène Manarino sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Amanda Sterz, je vous présente Hélène Manarino si vous ne la connaissez pas déjà.
Enchantée. Bonjour Amanda Sterz, enchantée.
Je connaissais sa voix.
Voilà, vous allez voir, c'est comme un massage, vous ne pourrez pas l'oublier.
Fermez les yeux, tout va bien se passer. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Surnom Moulia, quand vous étiez adolescente, et ça reste encore un peu, mais surtout princesse, de la part de vos parents et grands-parents, quand vous étiez petite, et de la part de votre fratrie, chef. Eh bien oui, Amanda Sterz, vous étiez une petite chef qui aimait organiser la classe, faire la maîtresse, donner des ordres où il fallait réaliser des activités. Alors attention, il fallait vous obéir. Puis c'était les parties de tarot, de backgammon. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs envie d'organiser des soirées tarot avec vos cousins. Alors depuis toute petite, vous aimez écrire des histoires que vous inventez tout en écoutant votre idole, Sting. Mais surtout, une chef libre qui avait envie de conquérir le monde sur cette chanson.
Vrai?
Vrai, c'est de Riddle, c'est Nick Kershaw. Ouais.
Une liberté, Amanda, qui a toujours été là, même très jeune. Vos parents partaient souvent en week-end, dès le vendredi soir, et vous faisiez débarquer une cinquantaine de personnes chez vous. Puis vous partiez tous en boîte de nuit, à peu près. Vous reveniez prendre le petit déjeuner que votre sœur préparait minutieusement. Vous étiez l'organisatrice. Il fallait être votre amie et s'adancer aussi là-dessus.
Mais ça, ça passe.
Je suis pas si vieille, mais oui.
Ah, mais ça, ça va vite. Ouais. Ça passe toujours en boîte.
Ah bah oui. Presque seule fille de la bande, vous faisiez le mur, même pour vos propres soirées que vous organisiez à droite, à gauche. Mais organisatrice, petite chef dans l'âme, vous prépariez aussi les anniversaires des autres. Vous avez été capable de faire un parcours chasse au trésor jusqu'au cadeau pour une personne. Plus récemment, organiser un anniversaire surprise pour une amie dans un karaoké chinois à Belleville, à Paris. Vous pouvez gérer un repas pour 20 personnes.
Je sais qu'il y a balancé. Ça se resserre.
Voilà, je savais en que fait, là-dessus, c'est... j'allais être grillée. Je ouais. savais, j'ai failli l'enlever. Alors, vous pouvez gérer un repas pour 20 personnes, une pasta party en quelques minutes. Bref, tout est sous contrôle. Alors, les libertés, vous les preniez évidemment en toutes circonstances. Que ce soit en équitation, lorsque vous vous êtes cassé la clavicule, vous avez décidé de couper vous-même votre attelle pour continuer.
Non.
D'enlever le plâtre de votre genou. Alors que
le plâtre du genou quand je me suis fait un ligament croisé.
Alors, la convalescence pas terminée.
J'ai essayé mon plâtre. Ouais.
Et puis, des libertés aussi lors de vos oraux du bac. Vous aviez une soirée la veille, vous êtes sortie sans le dire à vos parents et votre papa voulait vous parler avant le jour J. Donc votre sœur lui a fait croire que vous étiez dans la salle de bain. Et il vous parlait à travers la porte, sauf qu'il n'y avait personne de l'autre côté.
C'est
à
génial.
Ne pas reproduire chez vous aussi.
Ouais. Il lui a fallu 10 minutes pour réaliser. Quoi.
Et après, vous
il était hyper content parce que j'étais un peu insolente et donc je répondais. Et ma sœur m'a dit, il était hyper content parce que pour une fois, il s'est dit, genre, ça va, elle répond
elle
pas.
Répond pas.
Non, maintenant, ça suffit. Et au bout d'un moment, il s'est dit, mais tu te fous de ma gueule, il n'y a personne.
Conséquences, vacances annulées, punition, vous avez dû travailler l'été. Bref, une liberté secouée à ce moment-là. Mais évidemment, rien ne vous arrête, Amanda Sterz. Envie d'évasion, d'ailleurs. Aujourd'hui, votre nouvelle passion, c'est Marseille. Et puis, il y a eu le monde entier, un réveil, une envie de départ, une valise. Et hop, c'était parti. Alors, il y a eu l'Israël. Vous êtes tombée amoureuse là-bas. C'était il y a presque 20 ans. Vous avez tout quitté après juste une semaine de romance pour vivre avec cette personne. Vous avez fait des allers-retours pour apporter vos affaires. Bon, au bout de 2 mois, vous êtes rentrée, comme si de rien n'était. Et 20 ans après, vous avez encore quelques affaires là-bas. Alors, vous êtes partie à Miami faire vos études. Au bout de 5 mois, vous êtes rentrée car cela ne vous plaisait pas. Libre, sûre de vous, vous saviez ce qu'il vous fallait. Et plus jeune, vous rêviez parfois devant une série culte.
Ah oui. Je précise, elle mime les claps.
Et oui, bien sûr. Enfin, ça et Friends, si les gens ne font pas les claps, il faut
plus regarder. Faut les enlever de notre vie. Eh bien oui, Beverly Hills, d'ailleurs, lors d'une soirée à Los Angeles où vous étiez, il y avait entre autres Steven Spielberg. Mais la personne qui vous a impressionné, c'est Luke Perry, le fameux Dylan McKay, évidemment. Alors, les grands classiques, vous avez toujours eu le nez pour le reconnaître, et notamment une chanson. Vous l'avez écoutée plus jeune, vous étiez l'une des premières, et vous vous êtes tout de suite dit, ça va être un énorme tube, c'est de la folie. Et vous aviez raison.
C'est vrai ?
Je sais pas si je me suis dit ça, mais c'est vrai que j'ai souvent, j'entends une chanson et je sais que ça va marcher.
Et en tout cas, tu m'oublieras de la
chanter toujours.
La Rousseau.
Cette chanson.
Ouais, comme plein d'autres, mais bien sûr.
Parce qu'on avait préparé les paroles pour vous.
Ah ouais, non, là c'est un peu dur. Non, là je peux
pas y arriver. Faire, mais bon.
Alors, vous l'avez... Non, mais c'est juste que vous voulez pas genre vraiment vous effondrer en termes d'audience.
Non, on est très bien là, on est très bien, on est sur un bon trend. Non, parce qu'apparemment,
vous chantez pas mal. Alors, vous l'aviez enregistré sur une cassette. Je vous remercie car j'avais envie de la passer dans le portrait inattendu avant la fin de l'année, c'est chose faite. Alors, femme libre, et parfois ce sont vos affaires qui prennent un peu, voilà, leur liberté, comme une bague de votre maman que vous aviez perdue. Vous l'avez retrouvée dans une chaussette quelques temps après, ou alors votre permis de conduire. 2 ans après, une maison d'édition vous a appelé pour vous dire qu'elle avait retrouvé ce permis de conduire. Des affaires qui veulent leur liberté, mais qui reviennent toujours vers vous. Alors Amanda Sterz, vous êtes quand même très organisée. À chaque fois que vous déménagez, vous envoyez un mail à ceux qui vous aident avec une liste, pièce par pièce, en indiquant où va chaque objet, avec des couleurs. Dès que vous visitez un appartement, vous savez tout de suite comment cela va s'organiser.
C'est vrai, tout ça est vrai. Je vois votre sourire, que tout est vrai.
Tout non, mais beaucoup, ouais.
Et en fait, vous dites je suis folle.
Ah bah si, tout est vrai quand même.
Ouais, non, la bague et tout ça, non mais oui, il y a beaucoup de choses vraies. Ouais.
Libre dans votre cuisine, surtout, vous adorez ça, surtout préparer des muffins chocolat blanc framboise pour votre fils Léon. Alors Amanda Sterz, vous êtes surtout une passionnée, vous avez gardé cette envie de réaliser 1000 projets, de continuer de rêver, de rire, notamment avec votre groupe WhatsApp, les Pastèque Sisters. Et vous avez dit, il n'y a pas très longtemps, à votre fils Oscar, tu ne fais pas assez de bêtises, de fêtes, l'hymne à la vie d'Amanda Sterz, parce que vous avez gardé cette liberté finalement d'adolescente qui vous permet de ne jamais vous arrêter. Forever young.
Oscar s'est rattrapé la semaine dernière, je vous rassure.
Ah bon, oui, qu'est-ce qu'il a fait?
Une fête chez son père. Il devait y avoir 11 personnes.
Et il y en avait
beaucoup.
Mais plus.
je dis pas parce qu'il a dû trouver un nombre de compromis avec son père, sauf que moi j'ai vu les stories Instagram de ses copains.
Et ils ont tout pété.
Disons qu'il a célébré son bac.
D'accord. Forever Young. Merci beaucoup, Hélène.
Merci Philippe.
Merci. Et bravo pour la bague dans les chaussettes. En fait, je viens de voir. En fait, c'est dans une culotte.
Non, vous c'est vrai. On me l'a dit.
La suite. Dans Culture Média, c'est avec notre invité Amanda Sterz et nos indispensables. On parlera d'une série ado féministe sur fond de skateboard et du nouvel album de Norah Jones dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables. On va parler musique avec Angèle Châtelier dans un instant. Avant, on revient à notre invité Amanda Sterz pour son livre Lettres d'amour sans le dire, sorti aux éditions Grasset.
C'est l'histoire d'une dame qui a 48 ans, ou une jeune femme, une jeune grand-mère plutôt, qui se fait masser. Elle ne s'attendait pas à se faire masser par ce masseur japonais. Et elle découvre les relations, le désir, alors qu'elle pensait que cette chose-là était éteinte chez elle. Et ça parle aussi de la condition des femmes, de la manière dont elles sont perçues. À un moment donné, dans la page 104, l'héroïne dit que son père pensait d'elle. « Plus je devenais lettrée, plus les hommes me verraient moche », prévient le père. C'est du vécu ou pas ?
Non, pas du tout, Dieu merci. Mais c'est vrai que mon père, pour ne pas me dire ça, a dû aller à l'encontre d'une certaine éducation qu'il a reçue, où c'est vrai que voilà, les femmes, quand elles faisaient des études, c'était pour que ce soit élégant dans un dîner, mais pas ensuite pour exercer un métier, quoi.
Vous connaissez cette statistique absolument terrible. Plus une femme est lettrée, moins elle a de chances de rencontrer un compagnon.
Oui, c'est réel. Et je pense que plus elle a de pouvoir, plus elle a de d'ampleur, plus c'est compliqué.
Il y a Angèle Châtelet qui est avec nous, qui sourit. Et je pense qu'Angèle a des diplômes. Amanda Sterz, comment va votre couple ?
Bien.
Alors, je vais dire pourquoi je vous pose la question. Vous avez dit dans Paris Match, il y a 3 semaines, écoutez bien ce qu'a dit Amanda Sterz. Je suis dans le début d'une histoire, mais qui n'est pas vouée à durer, puisque je repars vivre à Los Angeles. Et je me suis dit, non, s'il nous écoute, il va être content.
Bah, on s'est dit qu'on allait essayer de faire marcher l'histoire quand même. Mais
voilà. Il y a du nouveau. Votre héroïne est prof de français. Encore une après celle de Française, d'Alexandre Jardin ou la belle Hélène de Pascal Rose. Pourquoi ce choix? Pourquoi vous avez choisi une prof de français?
Parce qu'elle connaît le Japon, parce qu'elle adresse cette lettre à ce masseur japonais en japonais, a priori, et qu'elle connaît le Japon à travers le prisme de la littérature. Et c'était important pour moi qu'on comprenne quelle est cette sensibilité au livre et à la Madame Bovary, un peu, elle connaît l'amour plutôt à travers la littérature.
C'est pas votre éditeur qui vous l'a soufflé?
Non, pas du tout.
Parce que vous savez que c'est le meilleur truc marketing.
Ah, je savais pas.
Bah, je vais vous dire, c'est très simple. La plupart des lecteurs sont des lectrices. La profession qui lit le plus sont les profs. Et la matière la plus enseignée, c'est le français. Bah... Donc, si vous mettez une prof de français... Vous cochez les trois cases pour que le lecteur puisse s'identifier.
C'est vrai que d'ailleurs, j'ai pas mal de lectrices profs de français que j'embrasse. Il y en a plein d'ailleurs qui font étudier mes textes à leurs élèves, c'est marrant.
Voilà, et moi j'embrasse ma maman qui était prof de français. Angèle.
Oui, ma maman n'est pas prof de français.
Non, mais vous avez quoi comme diplôme?
Enfin, suffisamment pour pas avoir de mec, voilà.
Voilà, maîtrise en célibat.
C'est génial. C'est pas facile d'enchaîner. Nora Jones est de retour, Angèle.
Oui, avec un nouvel album, Pick Me Up Off the Floor. Alors c'est le troisième album de Nora Jones en un an. Ses 11 nouveaux titres sont en réalité des ébauches de chansons qui ont bien failli être abandonnées. Jouées en studio lors des enregistrements pour son dernier album, Begin Again, des chansons résolument jazz. Take a bullet out of that gun, I'll be you my soul. Everything you want to know, swallow me up whole. If I call you a stranger, will you play the part? Even if you disappear, I'll hold you in my heart. Say no more. All the lies are washed up on the shore. Aux instants où l'on suffoque, à nos défaites, aux périodes douloureuses, Nora Jones préfère, elle, l'optimisme. Elle a bien raison. Ce nouvel album est une ode à la vie. Deux titres, au moins l'honore, I'm Alive, dit-elle dans l'un d'entre eux, Je suis vivante. Et puis tout livre, Vivre, dans lequel elle chante, Je tends la main pour vivre ce moment et enfin être libre, c'est ce que je cherchais. As best as you can live in this moment, I'll reach out my Être optimiste, c'est savoir écouter sa petite voix intérieure, celle qui dit « ça va bien se passer ». Et c'est d'autant plus doux et réconfortant quand c'est Nora Jones qui nous le dit dans son titre « Heartbroken Day After », le cœur brisé les jours d'après. So sad, it's not that bad, or is it? It might be today, a heartbroken day after. My heart is racing to find a way out of this. Si on comprend pas les paroles, c'est un peu mélancolique comme musique, donc c'est ça le nouveau Nora Jones, dire des choses optimistes sur de la musique un peu triste. C'est un peu l'idée de la mélancolie quand même, c'est le bonheur d'être triste, la mélancolie. Puis Nora Jones est loin de ne faire que des musiques tristes, hein. Juste avant cet album, elle a sorti Sisters, un album de country qu'elle a fait avec son groupe, le trio féminin Puss and Boots. Alors Nora Jones, c'est une grande prolifique, 3 albums en un an et des nombreux concerts confinés chez elle à New York. Ce qu'elle a adoré faire, hein, qui a rempli pour l'instant ce vide de ne pas pouvoir en faire pour de vrai. Nora Jones est bel et bien en vie et avec elle, nous aussi.
Merci beaucoup, Angèle. J'étais sur la traduction Puss and Boots. Vous parlez très très bien anglais, ça veut dire
Dois-je vraiment traduire?
Bah oui, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais.
Bah alors, c'est entre chat
et bottes.
Et bottes,
des chats et des bottes, voilà.
C'est un peu les boots de cow-boy, quoi.
Voilà.
C'est chat et sentier avec toi.
Exactement. Ouais. Exactement.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Samon Dasters qui est notre invitée ce matin, avec elle on continue à découvrir nos indispensables du jour et on parle d'une série sur OCS avec Clémence Olivier.
Philippe. Bonjour Clémence.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Cette semaine, une série plutôt pour ados, ça s'appelle Betty, c'est ça?
Oui, et Betty ce n'est pas le prénom de l'héroïne. En fait, je ne sais pas si vous savez Philippe, moi en tout cas je l'ai découvert avec cette série, les Betty ce sont des filles qui faisaient du skateboard dans les années 80 aux États-Unis.
C'est pas vrai, ben, je viens d'apprendre
un
truc.
Mais se faire appeler Betty, c'était pas vraiment sympa, c'était même méprisant, parce qu'être une Betty, ça voulait dire évoluer dans l'univers masculin du skate sans vraiment en faire, juste parce que c'était branché. Alors ça, c'était dans les années 80. La série, elle se passe aujourd'hui à New York. On suit justement un groupe de jeunes skateuses, mais ces filles-là, elles savent vraiment faire de la planche. En gros, ce sont des anti-Betty.
Waouh, c'est de la folie! C'était top! Elle est douée! Wow, regarde-toi!
Bon alors là, il faut imaginer Camille, ouais, qui fait tourner sa planche sous ses pieds. Non, c'est pas la VO.
Et
qui... Enfin, c'est la VO,
ouais,
mais doublée. Ouais. Donc oui, on voit dans l'image une skateuse qui fait glisser la planche sous ses pieds et qui va skater avec agilité. Et dans la bande, il y a aussi Kurt l'extraverti, Onibert la timide. C'est d'ailleurs sa Betty, des tranches de vie de ces skateuses passionnées. On les suit dans les skateparks, chez elles ou dans les rues de Brooklyn. D'ailleurs, pour l'anecdote, ces comédiennes, elles sont toutes des skateuses pro.
Alors Clémence, des filles qui font du skate, ça a l'air sympa sur le papier. Déjà, moi j'y connais rien ce sport, pourquoi c'est intéressant alors?
Alors moi j'y connais rien non plus, je vous rassure, mais il n'y a pas besoin d'être un adepte pour se laisser accrocher. Le skate, c'est un peu la toile de fond de la série, parce que Betty, ça parle surtout de l'adolescence. Ça montre comment les ados se construisent dans le monde d'aujourd'hui, leur rapport avec leurs parents, leurs premiers émois amoureux et évidemment les déceptions.
Il s'est passé quoi?
Rien, vraiment rien. Il ne me dit pas ce que j'ai fait de mal. Je ne sais pas pourquoi il est énervé.
C'est typique de Bambi, c'est un vrai enfoiré. Je ne sais pas si ça va te faire sentir mieux, mais je vais être honnête, il agit tout le temps comme ça. Quand il t'accorde son attention, tu te sens tellement bien. Et quand il arrête, tu te sens comme une grosse merde.
Ah oui, on entend la voix derrière en anglais. Clémence, toutes ces déceptions, questions perfides, ça vous a plu?
Eh bien oui, parce que l'ambiance, elle est vraiment particulière. Elle est urbaine, solaire, hyper contemplative. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans sans dialogue où simplement on observe. On voit par exemple les filles boire des bubble tea, fumer de l'herbe dans un parc, skater dans les rues de New York sous un soleil de plomb. Et je dois dire, c'est assez planant. D'autant que la bande-son est vraiment au service de l'atmosphère. On entend des bons morceaux de hip-hop, de rap et d'électro.
Et alors sur le fond, c'est comment ?
Eh bien, au-delà de l'atmosphère et du côté, il faut le dire, hyper bobo, la force de Betty, ce sont ses personnages. Les jeunes femmes de la série, elles sont toutes différentes. Certaines sont réservées, d'autres sans gêne. Il y a des hétéros, des lesbiennes qui assument ou pas. Bref, c'est un éventail d'adolescentes sans caricature. Ce sont des filles souvent nonchalantes, parfois agaçantes, mais elles doutent aussi beaucoup et c'est ça qui est touchant. Forcément, on repense à notre propre adolescence. Et si j'ai eu envie de vous parler de Betty aujourd'hui...
Oui.
C'est surtout, je dois le dire, parce qu'elle est pour moi une vraie série post-MeToo. C'est une série engagée qui aborde des sujets de société comme le consentement, l'orientation sexuelle, la sororité aussi. Et au fur et à mesure des épisodes, d'ailleurs, elle gagne en profondeur. C'est vraiment une série féministe, une série d'empowerment. Alors, je vous le disais au début, dans les années 80, les Betty, c'était un peu des suiveuses. Mais alors là, pas du tout. Ce sont des filles qui se battent pour avoir leur place et qui existent dans cet univers très masculin. En gros, le message, c'est une fille peut être qui elle veut et ça fait du bien.
Où est-ce qu'on peut voir Betty alors, Clémence?
Alors, c'est sur OCS, il y a 8 épisodes de 30 minutes, c'est assez court, même peut-être un peu trop court, ouais, mais c'est sympa.
C'est la saison 1.
C'est la première saison.
Il y aura
saison.
Peut-être une saison 2 à Amanda Sterr, ça vous a tenté?
Oui, je vais regarder.
Oui, bon, ouais, d'accord. Ça vous rappellera votre adolescence?
Pas vraiment, mais je trouve que esthétiquement, le skate, c'est aussi quelque chose de super à filmer, donc ça m'intéresse de voir ce qu'ils en ont fait.
Et alors, vous dites que votre série préférée, c'est Larry et son nombril. Et alors, j'avoue que je ne connaissais pas.
Ah, Curb Your Enthusiasm.
Ouais, ouais. C'est quoi cette série? C'est qui?
C'est Larry David, c'est le créateur de Seinfeld.
Ouais.
Et c'est sa vraie fausse vie, sa fausse vraie vie, je sais pas. Et c'est, on le suit à Los Angeles et c'est une critique de la société américaine assez poussée et extrêmement drôle.
C'est très drôle, vous le connaissez, Clémence ?
Oui, oui, et c'est rigolo parce que c'est un des personnages qui est quand même détestable, il est égoïste, cynique et pourtant on adore le voir et se marier avec lui, quoi.
Bon, on va en parler une prochaine fois ici dans Culture Média.
Bah, j'espère.
Merci beaucoup Clémence Olivier, vous restez avec nous Amanda Sterz.
Dernière partie de Culture Média avec notre invité Amanda Sterz dans un court instant sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Suite et fin de Culture Média avec notre invité Amanda Sterz pour parler de son dernier livre, Lettres d'amour sans le dire, publié chez Grasset, Philippe.
Comment s'est passé le confinement? Vous allez comprendre le sens de ma question. Pour vous, vous étiez où?
J'étais à Paris.
D'accord. Et ça s'est passé
ça
comment?
Ça s'est passé... j'étais pas du tout dans un rapport d'écrivain habituel parce que je sortais d'un confinement moi-même étant donné que je venais d'écrire un roman. Et j'ai eu besoin, comme on a besoin de comfort food et de manger des trucs d'enfants, j'ai eu besoin de faire des dessins, écrire des histoires pour enfants. J'étais dans un rapport au temps complètement différent où j'ai décidé au bout d'un moment d'arrêter de trop regarder les infos. Ça me déprimait.
Et c'était, vous avez écrit ça pour vous-même ou c'est quelque chose qui va être publié ensuite?
Non, pour moi. Ça m'arrive encore beaucoup d'écrire des choses pour moi.
Ouais. Page 21 de ce roman, Lettres d'amour sans le dire, vous faites dire à votre héroïne: j'ai honte de le dire, c'est vous qui écrivez. J'ai honte de le dire, mais ces dernières années, j'attendais de sentir pour me laver. Vous êtes lavé quand même pendant le confinement,
ouais, ou pas? C'est pas moi.
Oui, mais quand même, rien que cette idée-là, moi, je l'aurais jamais eue. Donc, c'est quand même vous qui tenez la plume.
Bah, j'essaye de dire à quel point elle a abandonné son corps, sa vie sociale. Elle a pas de lien. C'est une femme qui a été maltraitée aussi. Toutes ses premières histoires d'amour. D'abord, elle est... Enfin, il y a qu'elle qui ressent de l'amour. Elle est fille-mère, comme on dit. Elle tombe enceinte à adolescente, jetée de chez ses parents quand elle est enceinte à 16 ans. Et elle a un parcours où elle erre et c'est assez chaotique. Et donc, elle est abîmée et elle rejette ce corps dans son ensemble.
D'accord. Moi, je pensais que ne pas se laver en restant comme ça, il n'y avait que les ados, ceux qui ne voulaient pas faire le service militaire.
Il y a quelque chose, du coup, de l'adolescence, de cette peur de la sexualité qu'il y a dans l'adolescence. C'est assez proche.
Juste un tout petit mot. J'ai lu, parce qu'on parlait avec Clémence Olivier de série, vous êtes à l'origine des 60 premiers épisodes de Caméra Café.
Alors, j'ai écrit pendant la première saison, il y avait d'autres auteurs, mais oui, j'ai eu la chance que Bruno Solo et Yvan Le Bolloc, qui ont eu l'idée de Caméra Café, me fassent confiance quand j'étais un très jeune auteur. Et j'ai fait partie des gens qui ont écrit la première saison, oui.
J'ignorais, j'ai qu'un mot à dire, bravo. où en sont vos projets? Vous deviez tourner un film en Italie, ça va se faire, ça se fera, c'est annulé?
Ça se fait mars prochain, donc on tourne en mars, avril, je déplace ça.
Alors allez-y, ce sera quoi et avec qui?
Vous allez l'avoir en exclu, parce qu'on n'avait pas le droit de le dire jusqu'à maintenant.
Merci.
Mais donc c'est l'adaptation des Promesses. On attend encore l'héroïne, mais le personnage principal sera interprété par Pier Francesco Favino, qui est mon acteur italien préféré, et qui est une énorme star en Italie. Et le grand-père sera interprété par Jean Reno.
Formidable. Et tournage en français, en italien, en anglais?
En anglais, un peu d'italien, plutôt en anglais.
Donc le tournage, ça démarre quand? Et le film, on le verra quand?
On tourne au printemps prochain, un petit peu pendant l'hiver en Angleterre aussi. Et j'espère, en tout cas, septembre de l'année suivante, quoi.
Merci d'avoir été avec nous. Vous partez quand, à Los Angeles?
Mi-août.
D'accord, je dis ça pour le garçon qui nous écoute, il a encore un petit peu de temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Lettres d'amour sans le dire, quel joli titre. J'ai oublié d'expliciter pourquoi vous dites ça. Si, je l'ai dit au début, c'est que le mot je t'aime n'existe pas en japonais.
Il
n'y
a pas de
japonais.
Traduction littérale en japonais. On dit il y a de l'amour dans l'air, comme si ça nous tombait dessus et qu'on n'avait pas le choix.
Comme s'il faisait beau, c'était de la pluie. C'est très très joli et très poétique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Amanda Sterz. Nous, on se retrouve demain, évidemment, à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Philippe Gloagen, le cofondateur du guide du Routard. Cette circonstance, évidemment, regardez les guides spéciales France. Et puis le romancier, ancien académicien, ancien diplomate Jean-Christophe Ruffin, pour son dernier roman, ça s'appelle Le Flambeur de la Caspienne. J'arrive bien à le dire, Le Flambeur de la Caspienne, parce qu'il y avait Céline Dacosta, fallait pas que je me trompe, il y avait des allitérations.
C'est de ma faute.
Salut Céline Dacosta, je vous dis à demain. Non, c'est pas de votre faute du tout.
À demain Philippe Vandel.